Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Et aujourd'hui, on va avoir une émission consacrée aux questions liées à la pollution de l'air. Du déni au scandale humanitaire annoncé, y a-t-il urgence à agir ? Que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est dans le monde, chaque année, 7 millions de personnes qui décèdent. En France, on estime à 48 000 décès par an, les décès en lien avec la pollution de l'air. Et on a aujourd'hui un certain nombre d'études qui mettent une causalité très claire entre l'exposition aux particules fines, aux gaz à effet de serre et à d'autres gaz, et la mortalité en croissance sur ces sujets. Pour en parler aujourd'hui dans l'émission, deux invités. Tout d'abord, Christophe Najdowski, maire adjoint en charge des transports et des espaces publics. Bonjour.
Bonjour.
Qui a accepté de répondre à notre invitation. Écologiste, président également de la Fédération européenne des cyclistes. Et qui donc, évidemment, va nous parler de tout ce qui se passe, notamment à Paris. Mais on a aussi avec nous Pierre Cerne, conseiller régional Île-de-France.
Bonjour.
Porte-parole du mouvement Génération et président, lui, du club des villes et territoires cyclables. Donc on voit qu'on a des gens qui sont un petit peu éclairés sur ces sujets, en tout cas qui vont nous éclairer.
La crème du vélo.
Et pour commencer cette émission, peut-être vous faire réagir tous les deux sur les suites de l'explosion et de l'incendie du site Lubrizol à Rouen. Les autorités ont-elles été à la hauteur ? Les habitants se sont exprimés fortement en manifestant sur les réseaux sociaux. Ils ont l'impression d'être un petit peu livrés à eux-mêmes. Il y a aujourd'hui en France des centaines de sites classés Céveso à haut risque. Est-ce que finalement nous sommes préparés à la gestion de ces risques industriels ? Christophe Najdowski.
Alors il y a peut-être deux éléments à avancer sur ce dossier Lubrizol. Le premier, il concerne la surveillance des sites et leur inspection. Vous savez qu'il y a donc, ce sont des sites dits classés et ils doivent normalement faire l'objet d'inspections régulières. Or, ce qui se passe en France maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est la diminution du nombre d'inspecteurs qui sont habilités à pouvoir inspecter ces sites. Et donc, qui dit moins d'inspecteurs, ça veut dire aussi donc des fréquences d'inspection qui sont moins fréquentes, justement, et avec tous les risques que cela peut induire derrière. Alors, on ne sait pas évidemment quelles sont les causes précises de cette explosion et de cet incendie, mais toujours est-il que ça intervient dans un contexte de moindre surveillance de la part de l'État de ses propres sites à risque. Et puis l'autre élément, et dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est celui de la transparence et du besoin de transparence vis-à-vis des populations. Et là, très clairement, le sentiment majoritaire, c'est celui d'une absence de transparence, ou en tout cas d'un défaut d'information de la part des services de l'État sur la réalité de ce qui s'est passé. On a appris encore récemment que des matières inconnues avaient pris feu. Et donc, là encore, il y a manifestement une situation défaillante de la part de l'État.
On ne mesure pas encore toutes les conséquences, notamment sur le plan de la santé, mais Pierre Cerne, d'ores et déjà, on peut dire quand même que c'est une gestion qui fait mauvais genre, on va dire.
Oui, qui est, je dirais même, inquiétante. Inquiétante parce que, effectivement, les habitants de Rouen, mais bien au-delà de Rouen, hein, parce que le panache de fumée et les suies qui en sont tombées, ça concerne à peu près toute la partie nord-est du pays, hein, puisque ça allait très vite sur la Picardie,
tous les Hauts-de-France, le nuage.
Avec des effets sur les terres agricoles qui sont quand même repérables très très loin. Et avec une angoisse des habitants qui ont des effets, des gens qui disent avoir eu des effets directs sur leur, en tout cas sur leur,
leur état de santé,
ouais, avec des hospitalisations et des nausées, des maux de tête,
beaucoup de malaise,
etc., beaucoup de malaise, une odeur persistante. Et on a beau dire ce qu'on veut, que c'est, enfin voilà, ça veut dire que il y a des effets qui sont là, sans explication vraiment claire, voire pas d'explication du tout. Et chaque jour qui amène son lot d'annonces sur le fait que finalement l'État était pas en état de dire la totalité des produits qui étaient sur place. Ça correspond assez bien à ce que vient de dire Christophe sur le manque de surveillance adéquate du fait du manque de moyens manifestement des organismes d'État qui sont chargés de surveiller de très près ce type d'établissement, sur le fait qu'il n'y a aucune idée de la façon dont se sont combinés et des effets combinés des produits qui se sont combinés dans les explosions et l'incendie. Et on sait très bien que ce sont parfois les cocktails de produits en fait qui ont des effets sanitaires extrêmement graves. Un certain nombre d'ingénieurs et de responsables sanitaires qui disent maintenant en off qu'il aurait fallu évacuer 100 000 personnes dès le début de l'incendie parce que, par principe de précaution, au vu des effets...
Mais ça, est-ce que c'était possible en réalité, en pleine nuit? Est-ce que...
Ah bah, c'est difficile, mais c'est normalement des choses qui se préparent dans des endroits comme ça. Hein. Normalement, quand on a un site comme ça qui peut avoir des effets gravissimes sur les populations autour, il y a des plans. Il y a des plans de prévention des risques et il y a des plans d'évacuation. Et en tout cas, c'est toujours mieux d'essayer d'évacuer des gens, en tout cas ceux qui sont les plus proches, en n'oubliant pas les Roms qui habitaient dans... Enfin, qui étaient sur un terrain
à côté. Il y avait un camp de gens du voyage à 300 mètres.
On a totalement oublié de prévenir et d'évacuer dans la proximité immédiate de l'usine. Mais c'est toujours mieux que de dire aux gens, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Enfin, c'est incroyable la communication qu'il y a eu, notamment de la part du préfet. Un préfet que je connais bien, puisqu'il était préfet de Seine-Saint-Denis juste avant, puisque moi je suis à Montreuil, il était préfet de Seine-Saint-Denis juste avant d'arriver à Rouen. Et il a eu exactement la même attitude à propos d'une usine polluante qui est maintenant fermée, après mobilisation des riverains, des parents. Il y avait zéro problème. Il y avait du chrome 6 qui avait été repéré, un produit hautement toxique qui est normalement interdit en Europe aujourd'hui, qui était là, dans les analyses, etc. Mais pas de problème. Et il a préféré envoyer la police contre les parents et les riverains qui s'opposaient à l'usine, plutôt que d'avoir une attitude de protection des populations. Moi, ce qui me rend... amer, en fait, à propos de ça. Moi, j'étais, parce qu'on a tous une vie avant, j'étais au cabinet d'Yves Cochet, ministre de l'Environnement, au moment où AZF à Toulouse a explosé. On s'est rendu sur place, il était ministre de l'Environnement, il a été chargé de revoir, de durcir la législation sur la prévention du risque industriel et le traitement du risque industriel. Il a fait une loi qui était extrêmement...
strict,
voilà, qui rendait les choses quand même beaucoup plus réglementées et qui protégeait les populations davantage, qui prévenait les populations davantage. Cette loi a été détricotée derrière, et ce qu'il en reste, comme effectivement gouvernement après gouvernement, on a supprimé les personnes qui sont censées la mettre en œuvre, cette loi, et ben on se retrouve pratiquement 20 ans plus tard. Hein, c'était 2001, donc on est 18 ans plus tard, on se retrouve avec une situation qui n'a pas changé, une usine dangereuse en pleine zone habitée et dont les autorités ne savent pas gérer derrière.
C'est aussi là-dessus, avant peut-être de passer à un autre sujet, mais quand même, Christophe Najowski, on a beaucoup de sites Céveso, y compris classés à haut risque, près de Paris. Et sans faire dans le catastrophisme, on peut quand même s'inquiéter, et j'imagine que ça vous préoccupe en tant qu'élu de la ville de Paris, de comment on gérerait si demain, par exemple, au hasard, un dépôt pétrolier, il y en a un à Gennevilliers, c'est à 5-6 km de Paris, venait à s'embraser et à provoquer le type d'événement qu'on a vu sur Rouen. Il y a quand même, certes, c'est une responsabilité de l'État, mais quand même, ça doit préoccuper les élus locaux, et en particulier ceux de la ville de Paris.
Ça doit tous nous préoccuper à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'en France, on n'a peut-être pas cette culture du risque. On fait comme si ça n'existait pas. Or, le risque zéro n'existe pas, quel que soit le type d'activité industrielle ou autre. On peut aussi mentionner le fait qu'à 70 km de Paris, il y a une centrale nucléaire à Nogent-sur-Seine et qu'en cas d'incident, ça pourrait avoir évidemment des conséquences non seulement sur Paris, mais plus largement sur tout le territoire français. Donc on voit qu'il y a des pays où on a parfaitement intégré cette question du risque. Au Japon, par exemple, qui est un pays qui est souvent confronté à des risques d'origine naturelle, des catastrophes d'origine naturelle, ils ont cette culture. Et donc en France, on ne l'a pas. Et c'est vrai que, par exemple, en cas d'incident nucléaire ou d'incident industriel sur un dépôt pétrolier, aujourd'hui, les populations sont totalement démunies et ne savent pas quoi faire. Donc il y a très certainement... beaucoup à apprendre d'autres pays sur la façon dont on peut prévenir et gérer aussi les situations de crise.
Alors justement, on va parler peut-être pas d'une situation de crise, mais quand même d'une préoccupation aujourd'hui extrêmement forte à la fois des populations, mais aussi des élus locaux, c'est la question de la pollution de l'air. Vous avez, il y a quelques jours, Krzysztof Najewski, fait adopter un vœu pour piétonniser les abords des établissements scolaires à Paris. Et vous décrivez une situation de pollution de l'air chronique, avec en particulier des conséquences pour les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants. Alors c'est vrai qu'on peut prendre les choses de manière positive en disant les pouvoirs publics, et en particulier la ville de Paris, réagissent. Mais on peut aussi s'inquiéter en se disant, finalement, à Paris, il y a des choses qui vont se passer, mais ailleurs, il ne se passe pas grand-chose. Et est-ce qu'on ne fait pas subir, depuis maintenant des années, des pollutions nocives pour la santé de nos enfants? Et est-ce qu'il est pas déjà un peu tard pour réagir?
Alors, il n'est jamais trop tard pour agir. Et cette mesure de piétonnisation aux abords des écoles, elle doit aussi être replacée dans un cadre plus général, qui est celui de la réduction du trafic routier et de la nécessité de réduire les émissions de polluants. Il faut savoir qu'à Paris, la principale source de pollution de l'air vient du trafic routier. On a plus de la moitié des émissions de particules fines qui viennent du trafic routier. Pour les oxydes d'azote, qui est l'autre grand polluant local, on est même à plus de deux tiers des émissions qui viennent du trafic routier. Donc il y a une action à mener prioritairement sur la réduction du trafic automobile et routier plus généralement. Et c'est ce que nous faisons à Paris, avec des résultats qui sont tangibles. On a une diminution du trafic automobile. La qualité de l'air s'améliore à Paris, mais on reste encore sur des niveaux qui sont au-dessus des normes de qualité de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, évidemment, partant de là, il n'est pas... étonnant, malheureusement, de voir que les écoles, comme d'autres établissements d'ailleurs, sont soumises à cette pollution qui est chronique, qui est quotidienne. Alors, il faut donc avoir ces mesures de piétonnisation aux abords des écoles pour éloigner au maximum le trafic automobile et donc éloigner les sources de pollution. Mais il faut aussi le replacer dans un contexte plus général, qui est celui de développer toutes les alternatives à l'usage de la voiture individuelle, parce que c'est ça véritablement le fléau urbain auquel on est confronté, de manière à réduire les sources de pollution et faire en sorte que globalement, la qualité de l'air s'améliore dans nos villes.
Alors, Pierre Cerne, on vient d'écouter Krzysztof Najewski. Sur Paris, on a le sentiment, effectivement, même s'il y a encore des résistances, même s'il y a eu beaucoup de critiques, qu'il y a un palier qui a été franchi. Mais vous êtes élu, par exemple, à Montreuil. Il y a eu un débat dans les villes proches de Paris sur la zone de faible émission. Donc, je le rappelle, la zone de faible émission, c'est un dispositif non seulement à Paris, mais Paris est en avance, mais aujourd'hui pour inclure toute la banlieue parisienne, la proche banlieue, qui est également concernée par ces émissions et par cette qualité de l'air. Et il y a eu des villes qui sont rentrées en dispositif, mais d'autres qui ne veulent pas y rentrer. Et on voit bien que si on n'arrive pas à faire passer tous les territoires dans cette dynamique, il y a des trous dans la raquette et ça ne va pas être efficace.
On est bien d'accord. Et ça répond en partie d'ailleurs à la question que vous posiez à Krzysztof Najewski, c'est pourquoi si tard, etc. Mais la moindre mesure, et gageons que la mesure que très intelligemment Paris porte là maintenant de piétonniser autour des établissements sensibles, là où il y a les enfants, ils sont doublement victimes parce que c'est le moment où leur poumon se développe et prendre la pollution de l'air quand on est gamin, ça a des conséquences durables en fait sur la santé, y compris plus tard à l'âge adulte. Je suis bien placé pour le savoir en étant asthmatique lourd et en ayant gamin.
On sait que les maladies des voies respiratoires se sont beaucoup développées.
Et voilà, moi qui grandis le long d'un échangeur du périphérique, enfin il y a pas de mystère sur d'où vient cet asthme. Mais cette mesure qui paraît de bon sens et qui on dit mais pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt? Mais sauf que gageons que partout, autour de chaque école, il va y avoir des riverains, des parents qui vont dire « mais je ne peux plus emmener mon gamin en voiture jusqu'à la porte de l'école » et donc ça va râler. Et à chaque mesure pour réduire la circulation automobile, donc les études le montrent, diminuer la pollution et améliorer la qualité de l'air, il y a une levée de boucliers souvent très relayée par les médias, sur on atteint à la liberté des automobilistes à circuler en voiture. Quand on voit que les premières mesures qui étaient données il y a encore quelques années, quand il y avait des pics de pollution, c'était pas de dire aux gens « circulez moins », c'était de dire « sortez pas les gamins dans la cour de l'école ». C'était ça la réaction. Et il fallait surtout pas empêcher les automobilistes de bouger. Et donc effectivement, il y a des communes qui considèrent qu'il est plus important que leurs habitants puissent continuer à rouler en voiture.
Sans restriction.
Sans restriction, plutôt que d'entrer dans cette zone à faible émission. Où pour le coup, là, c'est porté par la métropole.
Qui est relativement nouveau, ça existe déjà dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'agglomérations.
Et quand on voit la difficulté qu'il y a eu à inclure un élargissement de ces possibilités ou de ces obligations de zones à faible émission dans la loi d'orientation des mobilités qui est en train d'être votée, ça, il y a eu des reculs systématiques sur cet aspect-là de la loi, parce que le nombre de députés, le nombre de lobbies qui montent au créneau à chaque fois que on essaye de réduire la pollution par la diminution du trafic routier. Et on sait très bien, toutes les études le montrent, tous les scientifiques le disent, c'est le seul moyen de faire diminuer fortement toute une série de polluants, notamment les polluants azotés et les microparticules ou les particules ultra fines. Et ben, à chaque fois, c'est un combat pied à pied. Et donc, les élus qui se font à la fois engueuler parce qu'ils font des restrictions de circulation, mais qu'en même temps, ils se font engueuler parce qu'ils ne diminuent pas la pollution, il y a quand même à un moment des injonctions paradoxales qu'on peut à la rigueur entendre de la part...
Alors, qui sont des contradictions qui peuvent être celles aussi des usagers.
Mais c'est-à-dire tout à fait, les usagers sont à la fois piétons et automobilistes.
On peut avoir à la fois envie de préserver la santé de ses enfants
et
mais soi-même pour
des
raisons d'habitude,
ouais,
prendre sa voiture. Bon.
Ouais. Mais la responsabilité, là, pour le coup, des médias, elle est grande parce que flatter ce genre de contradictions paradoxales dans des médias grand public qui font le matin une émission sur la... Je ne parle pas de vous, hein, mais une émission le matin sur la pollution et... l'impéritie et l'inaction des élus et qui, deux heures après, dans le journal, font un reportage à charge contre la piétonnisation de 2 kilomètres de voies sur berge en expliquant que c'est à cause de ça qu'il y a des embouteillages jusqu'à Versailles. Il y a un moment, il va falloir quand même retomber sur terre. Vous avez cité les chiffres, c'est quand même énorme. 48 000 décès prématurés en France.
Probablement, lié à la pollution atmosphérique.
Probablement là-dessus, entre un tiers et un quart en Île-de-France, ben on parle de phénomènes sanitaires gravissimes et de choses éminemment dangereuses. Et pourtant, moi je suis frappé effectivement par le côté, c'est la liberté absolue de pouvoir conduire. Quand on voit que sur une simple circulation alternée, ça fait hurler dans les chaumières. Il y a quand même un truc qui va pas, et il y a un certain nombre d'élus qui aident pas, parce que quand Valérie Pécresse, présidente de région, supprime la gratuité des transports en commun pendant les pics de pollution, qui était le pendant de la mesure de diminution de circulation, on vous diminue la circulation, mais par contre vous pouvez prendre le métro ou le RER gratuitement, ça avait du sens.
Alors, on parlera dans la seconde partie d'émission.
Elle le supprime, donc ça va pas dans le bon sens. Et tout le monde ne tire pas dans le même sens. Et ça, c'est dramatique parce qu'en attendant, les morts continuent à tomber.
Alors, c'est important ce que vous venez de dire, Pierre Saint, tout le monde ne tire pas dans le même sens, puisqu'on l'a vu lors du débat sur la zone de faible émission, il y a sur la centaine de communes concernées, il y en a quand même une trentaine qui pour l'instant ne rentrent pas dans le dispositif. Avec parfois, là je me fais l'avocat du diable aussi, des arguments. En disant, à partir de 2021, on va pénaliser les véhicules les plus anciens, donc peut-être aussi les familles ou les personnes les plus modestes. Celles et ceux qui, par exemple, ont peut-être besoin de prendre leur véhicule pour aller au travail, et donc avec des vraies contraintes. Qu'est-ce que vous répondez aussi à cet argument, qui est un argument, je dirais, aussi économique, de dire on va faire payer aux citoyens pollueurs, mais qui n'a pas forcément toujours les capacités de s'équiper du véhicule adéquat, une politique certes d'intérêt général, mais est-ce que c'est pas justement... qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour répondre à cet argument ?
L'argument, il est tout à fait entendable. Maintenant, il faut bien voir qu'on est face à une situation qui appelle des solutions. La zone à faible émission, c'est pas le seul moyen de lutter contre la pollution. Ça vient en complément de l'investissement dans les transports collectifs, dans les mobilités partagées, dans les mobilités actives, le vélo notamment. Donc, il faut parallèlement, bien évidemment, développer les alternatives et ça se fait. Il faut accompagner également. Il y a des aides anti-pollution de manière à pouvoir, quand on a l'obligation d'utiliser un véhicule, je pense notamment par exemple aux artisans ou aux commerçants, de pouvoir s'équiper avec un véhicule non polluant ou moins polluant. Et puis, il faut bien voir également que ces restrictions ne portent aujourd'hui, quand on parle de la ZFE, que sur la semaine, du lundi au vendredi. C'est-à-dire qu'on dit qu'en semaine et en journée, on doit pouvoir utiliser d'autres moyens de se déplacer que des moyens de déplacement polluants. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, dans ce laps de temps qui va nous amener à 2021, entre aujourd'hui et 2021, pendant 2 ans, développer les alternatives pour faire en sorte qu'en 2021, quand on arrivera à la date de la ZFE, faire en sorte que toutes les alternatives soient données aux métropolitains, aux grands parisiens, pour se déplacer autrement en semaine et en journée.
Et ça sera l'objet de la deuxième partie de l'émission où on va notamment parler des alternatives, de tout ce qu'il faudrait faire pour justement garantir dans la durée la possibilité aux gens de circuler de manière moins polluante. À tout de suite.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, on parle et on évoque les sujets liés à la pollution de l'air avec mes deux invités, Christophe Najdowski, adjoint au maire de Paris en charge des transports et des espaces publics, et Pierre Cerne, qui est conseiller régional Île-de-France et président aussi du club des villes et territoires cyclables. Avant de continuer sur les alternatives dont on a commencé à évoquer les possibilités, je voudrais vous faire réagir tous les deux sur cette décision de justice qui est, d'après moi, relativement inédite. Dans l'agglomération de Villeurbanne, il y a une maman, une mère de famille, qui vit à 600 mètres du périphérique lyonnais et qui a fait reconnaître par la justice le déficit d'action de l'État contre les pics de pollution auxquels elle attribue les pathologies de bronchite aiguë, de bronchite asthmatique et de toux grasse à son fils. Et le tribunal a reconnu, alors il n'y a pas eu d'indemnisation, mais symboliquement, il y a une reconnaissance par la justice d'un déficit d'action ou de réaction par rapport à cette situation. C'est quand même extrêmement intéressant de voir que petit à petit, dans toutes les pores de la société, il y a quand même cette prise de conscience qu'on ne peut plus rester les bras croisés devant cette situation. Christophe Najdowski.
Oui, effectivement, il y a une inaction de la part de l'État français. D'ailleurs, la justice française le reconnaît elle-même aujourd'hui, après la justice européenne, puisqu'il y a une action contentieuse contre l'État français de la part de la Cour de justice européenne, saisie par la Commission européenne pour inaction de la France en matière de lutte contre la pollution de l'air. Ça fait depuis 2005 déjà que la France aurait dû mettre en place un certain nombre de mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique et qu'elle n'a pas faite. Et donc, au bout d'un moment, la justice se saisit de la question parce qu'il y a des citoyens, comme vous l'avez mentionné, qui souffrent dans leur chair de cette situation. Donc, il est grand temps que l'État ne soit plus aux abonnés absents et se limite simplement à mettre en œuvre des décisions que la justice va lui imposer. Donc il est grand temps qu'on ait un véritable plan d'envergure de reconquête de la qualité de l'air en France, parce qu'il y a ce contentieux, parce qu'aujourd'hui, il y a même une injonction du Conseil d'État qui a été... c'est une décision qui date de l'été 2017, à ce que la France agisse aussi, à ce que l'État français agisse, parce qu'il y a un problème de santé publique qui est face à nous. On l'a rappelé en début d'émission sur... le nombre de décès prématurés causés par la pollution de l'air. Donc on est véritablement face à ce problème de santé publique qui concerne tous les citoyens, donc il est grand temps d'agir désormais.
Une réaction aussi, Pierre Serre.
Oui, j'ai toujours été persuadé qu'on sous-estimait la voie judiciaire dans ce genre de choses, parce que c'est parfois un élément qui fait bouger quand même les autorités, qui n'aiment pas être condamnées. Pour l'instant, il n'y a pas d'indemnisation, mais s'il y avait indemnisation, ça la forcerait probablement à peser ce que coûterait une politique d'action par rapport à ce que risque de coûter une politique d'inaction. C'est pas la première décision de ce type et elle commence à se multiplier. Le tribunal administratif de Montreuil avait aussi donné raison à un groupe de riverains et de parents qui poursuivaient l'État pour son inaction et qui ont gagné, là encore sans indemnisation, en tout cas à ce stade. Mais d'en être réduit à saisir les tribunaux, c'est quand même terrible.
C'est un constat d'échec.
On ne devrait pas en être là. Enfin, quand on voit que... Enfin, moi, j'ai fait la dénonciation, appelons ça comme ça, au procureur de la République qui a lancé le procès du Dieselgate. Donc ça s'appelait Volkswagen Gate, mais c'est devenu le Dieselgate en fait en France.
L'action juridique. Oui, on rappelle la sous-estimation des pollutions émises par les véhicules.
Même on peut dire le fait
la
que
sous-estimation les constructeurs voulue et
trichaient en fait et mettaient des logiciels permettant ou mettaient, on espère que c'était mettaient et ne mettent plus des logiciels permettant en fait aux voitures de passer les tests d'homologation alors qu'en fait elles sont beaucoup plus polluantes qu'elles annoncent.
Et donc elle dépasse les normes et donc tout est
très largement les normes. Paris vient de montrer, Christophe en parlera sans doute mieux que moi, mais que quand en plus on fait les mesures réellement en situation réelle sur les voitures qui circulent aujourd'hui, elles explosent complètement les normes qu'elles devraient respecter, y compris sur les modèles les plus récents, sur lesquels on nous expliquait que c'était plus possible de tricher, que là, cette fois, les normes, elles étaient obligatoirement respectées parce que l'homologation se faisait en situation réelle, etc. Eh ben non. Et donc, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que, au-delà des politiques, parce que dans une politique pour lutter pour la qualité de l'air, il y a la diminution du trafic automobile, il y a le fait que dans les voitures qui restent, il n'y ait pas une personne, mais qu'il y en ait plusieurs, donc ça fait diminuer encore le nombre de véhicules, et que pour les véhicules qui restent, au moins les motorisations soient meilleures. Et une politique d'amélioration de la qualité de l'air, elle passe forcément par ce travail sur les motorisations, avoir les choses les moins polluantes, donc plus de diesel, donc des motorisations où les rejets sont extrêmement bas.
Hybrides ou électriques.
Si systématiquement les mesures qu'on a prises, les aides qu'on donne aux gens pour acheter des véhicules moins polluants ou non polluants, que les véhicules qu'on achète, moi je suis en tant que conseiller régional, je suis administrateur, d'ailleurs Christophe aussi l'est, de Île-de-France Mobilité, de l'ancien STIF.
Anciennement le STIF, voilà. Le syndicat des transports en Île-de-France.
On achète des centaines et des centaines, des milliers de bus. Et on achète des bus plus chers parce qu'ils sont moins polluants. Ils sont dits moins polluants. Mais si les bus qu'on achète plus chers, parce que les constructeurs nous les annoncent non polluants ou moins polluants, et qu'ils se révèlent finalement complètement différents des normes pour lesquelles on paye plus cher et pour lesquelles on les achète, c'est non seulement un scandale, c'est une escroquerie, mais en plus, en termes sanitaires, c'est catastrophique. Enfin, moi, j'avais dit et je maintiens que les constructeurs automobiles qui ont fait ça et qui continuent à faire ça en toute connaissance de cause sont des assassins de masse. Voilà. Et le problème, c'est que le procès, l'instruction judiciaire qui a été lancée sur le Dieselgate, tant que c'était Volkswagen et Fiat, ça allait très vite. À partir du moment où Renault et Peugeot sont entrés en fait dans le champ de ceux qui étaient soupçonnés et que l'instruction continue sur eux, on n'en entend plus parler. Et ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans quasiment jour pour jour que ça a été lancé et il n'y a rien. Il n'y a toujours pas de procès. Et donc c'est un peu inquiétant. Mais la justice, moi je pense, va être un allié, est un allié important dans cette bataille-là. Et si l'État... parce qu'il y a besoin de l'État. Hein. Toutes les politiques qu'on mène au niveau régional, local, à Paris, l'État devrait aider, devrait être aux côtés des collectivités pour ces politiques. Et souvent, les collectivités, elles font ce que l'État ne fait pas. Peut-être que ça va enfin les faire réfléchir et que ça va secouer un peu l'État et qui va mener des politiques plus ambitieuses. Ça commence un tout petit peu hein, dans les solutions. Christophe, comme moi, on pense que le vélo est une des alternatives sérieuses et importantes. L'État a commencé à prendre la mesure de cette question et le plan national vélo, qui est pas parfait, il a quand même des avancées. Et l'État vient d'annoncer qu'il finançait 152 projets, dont un certain nombre en Île-de-France, d'aménagement cyclable qu'il va cofinancer aux côtés des collectivités. C'est une première. Donc il se passe quelque chose, mais on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait.
Alors Christophe Nalzowski, c'est vrai qu'on a bien compris que l'enjeu c'était de réduire la circulation automobile et puis aussi pour les automobiles qui resteront en circulation, la conversion à des motorisations plus propres. Mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers une offre qualitative de transport public. Il faut aussi créer les conditions d'une meilleure circulation des vélos. C'est le cas, je crois, maintenant à Paris, il commence à y avoir réellement des réseaux cyclables. Mais quand on voit la connexion, y compris avec les villes de très proches banlieues, on voit qu'il y a quand même un déficit de liaison. Et donc, en réalité, il y a encore énormément de chantiers à mener et d'efforts à faire pour... changer de paradigme en matière de mobilité.
Oui, il y a beaucoup de chantiers à mener. C'est aussi une question de choix et de volonté politique. Parce que la situation que nous avons aujourd'hui, eh bien, elle est aussi le produit de choix qui ont été faits par le passé, qui ont été ceux de l'adaptation des villes aux tout-voitures, du fait que la France a fait le choix aussi de pousser à la dieselisation des véhicules avec tous les effets sanitaires que l'on récolte malheureusement aujourd'hui. Et donc, c'est une question de choix politique. Le choix d'investir prioritairement dans le développement de l'offre de transport collectif, de continuer à investir massivement dans les réseaux de métro, de RER, de tramway, parce qu'il y aura toujours besoin d'avoir ces transports de masse capacitaires. Le choix d'investir dans les mobilités partagées, l'autopartage, le covoiturage. Vous avez 80% des gens qui sont seuls dans leur véhicule. Si on développait massivement le covoiturage, on aurait beaucoup moins de véhicules qui circuleraient sur les routes en Île-de-France et on aurait une qualité de l'air qui s'améliorerait grandement. C'est le choix aussi de développer, comme l'a évoqué Pierre, la question du vélo. Il y a un potentiel énorme de report sur le vélo pour les trajets du quotidien parce que beaucoup de nos déplacements sont tout à fait faisables à vélo, soit en vélo dit musculaire, comme on dit, c'est-à-dire le vélo classique ou le vélo à assistance électrique, qui connaît un véritable boom un peu partout en France. Et donc voilà, il faut orienter les investissements vers ces déplacements actifs, doux ou collectifs, et puis aider nos concitoyens, parce que malheureusement, ils ont été aussi incités à acheter, par exemple, des véhicules diesel, donc les aider à... La transition écologique qui est nécessaire des véhicules, tout en réduisant aussi le volume de véhicules en circulation. Donc il faut à la fois agir sur les motorisations des véhicules, mais aussi ne pas perdre de vue qu'il faut réduire le volume global de véhicules. Si on remplace 1 million de véhicules thermiques par 1 million de véhicules électriques, on aura les mêmes problèmes de congestion, les mêmes problèmes d'occupation d'espace public, et on aura aussi des problèmes d'émissions, parce qu'en réalité, il faut savoir qu'une partie des émissions de particules fines, par exemple, bien de l'abrasion des pneus ou encore des freins sur les routes. Et donc, le fait de maintenir un même volume de circulation ne réglerait qu'une partie du problème. Donc, il faut aussi poursuivre dans la réduction du trafic.
Et il faut le faire, je le rappelle, à l'échelle non pas seulement des villes-centres, mais des agglomérations. Aussi récurrente qui a été faite en direction de la ville de Paris, même si on voit aujourd'hui que ces critiques commencent à baisser parce qu'il y a des résultats qui sont là et qui sont évidents, mais il y a quand même des gens qui disent, et on est banlieusards, Pierre Cernet et moi, est-ce que ça va pas reporter sur la A86, sur la francilienne, sur les villes aux alentours de Paris, toutes ces circulations qui pourront plus se faire et qui se feront de moins en moins dans Paris intramuros. Donc, quand même, on a aussi, il faut qu'on puisse agir à l'échelle de l'agglomération. Sinon, on a cet effet où à Paris, il y a des choses vertueuses qui sont en train de se passer, mais finalement, autour, ça bouge moins vite.
C'est d'où l'intérêt, en fait, de cette zone à faible émission qui est cette fois à l'échelle
de l'agglomération
métropolitaine et qui prend en compte en fait des limites qui sont on va dire intelligentes, à condition que toutes les communes s'y mettent.
Ce qu'on appelle le Grand Paris, quoi.
Voilà, mais avec en plus l'idée qu'il faut que ça corresponde quand même à des zones où l'offre de transport en commun est compatible avec le fait de dire aux gens là vous circulez plus en voiture.
On peut le faire à Paris parce qu'il y a des lignes de métro, de tramway, il y a un réseau
on
vraiment dense.
On peut le faire en gros dans les zones où le réseau de transport en commun est assez dense et efficace, ce qui est le cas quand même dans une bonne partie de Paris et de la proche couronne, beaucoup moins le cas dans le reste de la région. Et c'est d'où le sujet qu'il faut traiter aussi la question de la grande couronne et du périurbain. Et Dieu sait s'il y a des zones très vastes en Île-de-France qui sont concernées, où on est loin des gares, etc. Donc la question là du rabattement sur les modes lourds est très importante, d'où le fait qu'il y a eu un effort de fait dans la mandature précédente pour développer les bus de grande couronne avec des cadencements très forts pour desservir les gares à toute heure et tous les jours de la semaine, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et il y a une explosion de l'utilisation des bus de grande couronne. Hein, on est à plus 30% de fréquentation dans les bus de grande couronne en Île-de-France. Donc on n'est pas sur quelque chose de ridicule. Et la desserte des gares est extrêmement importante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'effectivement, une politique qui a lieu dans une commune, et puis la commune d'après, c'est pas le cas, et la commune suivante, on sait pas, c'est pas possible.
Notamment pour le vélo, d'ailleurs.
Et
Parce que si on a des ruptures...
Ça vaut pour les voitures, mais ça vaut évidemment pour le vélo. Le vélo sans couture, comme on
dit. Sans continuité, c'est dramatique.
C'est le combat principal. Le fait que ce soit de plus en plus géré au niveau de l'intercommunalité est une bonne chose parce que du coup, on a au moins sur des bassins de vie et des bassins d'emploi une politique à peu près cohérente avec des schémas vélos. Et je pense qu'il y a aussi, et du fait des villes pionnières comme ont pu l'être Paris, mais comme peuvent l'être
Strasbourg,
Nantes, Rennes, Grenoble,
il y a... On ne citera pas les mauvais élèves,
il y a
Marseille dedans par exemple.
Mais qui a décidé de s'y mettre, alors on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ces villes-là, en général, viennent adhérer en fait au club des villes et territoires cyclables que je préside. Et qui a,
j'ai un pas dans la bonne direction, vous
oui,
direz.
Non, mais parce que en fait, ils viennent chercher des solutions que d'autres ont mises en place. Et voir comment on évite les bêtises et comment on peut aller vite vers des politiques cyclables efficaces, et notamment en apaisant la circulation. Il y a parfois, quand on est dans une zone 30 ou une zone où la circulation est à 20 km/h, il n'y a plus besoin de faire des aménagements cyclables lourds parce que on peut faire du vélo.
On a apaisé la circulation,
en
la
sécurité,
vitesse.
Puisque même les voitures qu'il y a roulent pas vite. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et il y a une très forte demande de la population que sentent en fait tous les élus. Et je pense que les élections municipales qui viennent partout, la question du vélo et des aménagements cyclables, de l'accompagnement des cyclistes.
De la ville respirable aussi.
De la ville respirable, du vélo du quotidien, vont être, je pense, au cœur des préoccupations et ça va obliger les élus, en fait, les candidats, à en parler et à faire des propositions. Je pense que là, on a basculé dans quelque chose de différent, que ça va dans le bon sens de ce point de vue-là. Et franchement, les politiques vélo, c'est des politiques qui coûtent très peu cher par rapport à la mise en place, par exemple, d'un réseau bus ou a fortiori d'un tramway ou d'un métro. Ça peut se faire rapidement et ça a un effet, un impact en fait sur l'apaisement de la circulation, sur la diminution des pollutions et donc sur la qualité de l'air et la bonne santé des gens, non seulement par la qualité de l'air, mais parce que le fait d'avoir une activité
de
physique
faire du
est
sport considéré,
voilà,
ou de
c'est
l'activité.
Très bon pour la santé. À tout point de vue, c'est des politiques qui devrait être mise en œuvre beaucoup plus fortement et beaucoup plus vite. On sent que ça frémit et que les pouvoirs publics et que ça commence à devenir quelque chose où c'est plus les écolos purs et durs d'un côté et puis tous les autres qui regardent d'un air de dire mes pauvres enfants. Non, on a vraiment l'impression là que c'est en train de devenir quelque chose qui est conceptuellement pris à bord par tout le monde. Après, dans les mises en œuvre, dès que ça commence à coûter un peu d'argent, mais surtout que ça empiète, et c'est obligatoirement ça empiète, sur la place de la voiture.
La place de la sacro-sainte voiture.
Et là, on voit que la question de la volonté politique dont parlait Christophe, elle est forte.
Alors, un dernier mot, Christophe Nage aussi, parce qu'on malheureusement, on arrive à la fin de notre émission, on a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que vous sentez, vous, que culturellement, On a franchi un cap que c'est plus le combat porté par des minorités actives, mais que petit à petit, les populations, à travers des prises de conscience, des mobilisations, se saisissent des sujets et vont faire même dans les communes, hein, notamment en proche banlieue où ça, il y a des équipes municipales qui sont pas très réceptives à ces sujets. Vous sentez que la pression va augmenter et que finalement tout le monde va devoir s'y mettre.
Oui, les choses évoluent et plutôt dans le bon sens, je trouve. Il y a une vraie prise de conscience d'abord des grands enjeux écologiques planétaires et qui sont aussi liés à notre façon de nous déplacer en ville. Il y a eu une controverse au moment de la piétonnisation des berges de Seine. Aujourd'hui, plus personne ne veut revenir en arrière. Et elles sont aujourd'hui plébiscitées. D'ailleurs, elles sont même utilisées par des métropolitains. Ceux qui les utilisent, notamment les cyclistes, viennent de banlieue pour travailler à Paris et ils utilisent les berges de Seine pour se déplacer au quotidien. Ce qu'on voit aussi, c'est que les comportements de déplacement, de transport, se modifient avec le temps. Auparavant, c'était quand même très mono-mode. On était sur un mode, la voiture, d'ailleurs, qui n'est pas majoritaire à Paris. Il n'y a que 10% des Parisiens qui utilisent une voiture pour se déplacer au quotidien. Et même pour les non-Parisiens qui viennent travailler à Paris, ils ne sont que 30% à venir en voiture. La grande majorité, presque 70%, utilisent les transports en commun,
Il faut le rappeler.
Voilà. Et donc, il y a un enjeu sur le développement de transports qui soient de plus en plus multimodaux, c'est-à-dire multimodes, dans lequel on va combiner, par exemple, un transport collectif, et puis après, on va prendre un vélo en libre-service, typiquement en Vélib, pour terminer son trajet sur Paris ou à l'échelle métropolitaine, puisque Vélib, qui était un service quasi exclusivement parisien, est désormais un service métropolitain. Et donc, voilà, l'avenir, il est à la multimodalité et aux mobilités douces. Pour bien respirer en ville.
Eh bien, écoutez, j'espère que nos auditeurs auront pu prendre conscience s'ils n'étaient pas conscients de la situation et qu'en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se passer. Merci à tous les deux. Merci Pierre Cerne. Merci Christophe Najowski.
Merci à vous.
C'était l'émission Si on parlait consacrée à la pollution de l'air, mais aussi aux solutions et aux solutions d'avenir. J'espère qu'on a réussi à faire passer le message qu'il n'y avait pas de fatalité sur ce sujet. Et je vous remercie à toutes et à tous. À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.